France Musique.
C'est l'heure d'accueillir mes invités en studio, Elsa Gretter et David Lively. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique Matin. Ce matin, vous êtes en studio avec nous pour nous parler de votre disque, récent disque consacré à Prokofiev, Masque, paru chez Fuga Libera en mai dernier. Un programme dont vous jouerez une partie très bientôt, le 3 août, ce samedi 3 août, dans le cadre du festival Les Musicales de Normandie à Varangeville-sur-Mer. Alors Prokofiev, né en Ukraine en 1891, un excellent pianiste et qui a composé aussi de superbes pièces pour cordes, dont ces deux sonates pour violon et piano qui se retrouvent sur votre disque. Il y a à la fois une énergie incroyable, une très belle poésie. Refléter cette richesse, justement, toutes ces facettes de Prokofiev, c'était ça un peu l'idée du disque ? Elsa Gretter.
Oui, tout à fait. C'est un compositeur extrêmement varié, extrêmement contrasté, qui est un immense coloriste. Et alors, sa musique a toujours une immense motricité rythmique, mais aussi beaucoup de poésie, comme vous le disiez, et un lyrisme intense. C'est un des plus grands mélodistes du XXe siècle, qui a su autant aussi bien écrire pour les cordes que pour le piano. Voilà.
Le piano, effectivement, David Lively, votre partie, vous dire quelque chose de très engagé, enfin très.
Oh, ça, on peut le dire, parce que c'est toujours extrêmement pianistique. C'était un des plus grands pianistes du XXe siècle et compositeur pour piano aussi du XXe siècle.
Nous allons écouter un premier extrait de votre disque, le scherzo de la sonate pour piano et violon numéro 2 en ré majeur, donc de Prokofiev. Thank you. Sur France Musique, à 8h37, le scherzo de la deuxième sonate pour violon et piano de Prokofiev, l'opus 94 bis, interprété par mes invités ce matin, la violoniste Elsa Gretter et le pianiste David Lively. Une sonate à la base écrite pour flûte et piano.
Oui. Absolument.
Il l'a écrite après pour violon et piano, à la demande d'un musicien?
Oui, de David Oistrakh, qui était au concert à la création avec flûte en 1943, et qui s'est dit, c'est pas possible, il faut absolument une version violon et piano, donc la partie piano reste inchangée. Mm-hmm. Mais David Oistrakh a contribué à l'écriture de la partie violon. Il a proposé.
Je suis sûr que le compositeur lui a dit, mais bon, je veux bien, mais tu t'occupes de la partie violon.
Je sais. la deuxième sonate, en fait, Prokofiev la termine en premier, donc autour de 43, comme vous l'avez dit. La première, elle, l'opus 80, est terminée en 46. Alors dans le mouvement qu'on a entendu, il y a quelque chose de à la fois malicieux et puis aussi quelque chose de folklorique, très dansant.
C'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup d'humour différent. Que ça va de l'ironie, du sarcasme, beaucoup de burlesque aussi.
Comment vous le ressentez-vous dans la partition?
C'est extrêmement vivant, toujours, il faut être toujours en alerte, en fait. C'est quelque chose de très, il y a beaucoup d'engagement physique aussi dans cette musique, mais c'est très précis, c'est très raffiné, très ciselé. Cette deuxième sonate est d'écriture beaucoup plus classique que la première, mais avec toujours une harmonie, moderne, très moderne. Une grande transparence, le compositeur voulait simplifier. Et beaucoup de lumière, en fait, dans cette sonate. C'est un peu comme une fenêtre, un bol d'air, on va dire, sur par rapport à ce qu'il vivait au quotidien, ce qui a été un environnement absolument oppressant.
Oui, les deux sonates ne pourraient pas être plus éloignées l'une de l'autre. Elles sont extrêmement contrastées. Et en fait, l'écriture pour piano dans cette sonate aussi pour la flûte. Il a dû beaucoup penser à la flûte et ses moyens dynamiques, parce que l'écriture pour piano est extrêmement allégée, extrêmement aérée aussi, comme disait Elsa. Et donc on a un rapport avec le piano qui est très loin de l'écriture de l'autre sonate, qui est extrêmement virtuose, dans extrêmement difficile. Et par moment, il souhaitait que le piano prenne le dessus et un peu, je pense, un peu écraser le violon, telle une situation quasi sociale ou une critique politique.
Oui, et en parlant de politique, effectivement, on ressent dans votre disque justement ce chemin musical qui nous fait aussi connaître un homme qui a été oppressé par le régime bolchevique. Il est resté en exil très longtemps et puis il a été censuré.
Oui,
même.
Oui, oui. Apparemment, il a eu des problèmes cardiaques à cause de ça, d'après ses petits-enfants.
Il y a de quoi.
Il est mort, ironiquement, il est mort le même jour que Staline.
C'est vrai.
Et en fait, les officiels ont demandé à sa famille de taire son décès pendant plusieurs jours pour ne pas faire de vagues.
Des ordres.
Voilà. Et Oistrakh et Oborine ont joué à son enterrement, d'ailleurs, deux mouvements, les mouvements lents de la première sonate, qui est une sonate très dense et très, très sombre, très, extrêmement très puissante, qui va vraiment au fond des émotions, je pense.
Et alors, l'humour dont vous parliez tout à l'heure, enfin, la malice, est-ce que c'est justement une sorte de pied de nez à ce.
Moi, il me semble. Il me semble, absolument. Et c'est une espèce d'échappatoire aussi. C'est moins la critique voilée comme Shostakovich, à peine voilée de Shostakovich. Mais il réagit à sa façon qui est plus son attachement avec les contes de fées, avec le folklore qui sont des rapports beaucoup plus lié à l'enfance.
Et alors, qu'entendez-vous par là, justement? Parce que je vous entendais souvent dans des interviews précédentes parler de l'enfance, justement, le merveilleux qu'il y a dans ces partitions. Est-ce que vous, en tant que musicien, vous pouvez nous dire un peu comment ça se ressent dans la partition, le côté enfance et merveilleux?
Eh bien, beaucoup dans les mouvements lents, je pense, tout ce qui est mouvement lent, c'est comme des oasis, vraiment des brises d'air, quelque chose qui souvent moi, il y a des images qui viennent liées à sa terre natale, comme tous les Russes ou tous les Ukrainiens.
Des harmonies plus diatoniques, plus apaisées, moins dissonantes et sa recherche d'un moment d'éclaircie qui est aussi le point culminant de l'intensité expressive de ces passages-là.
Nous allons vous réécouter, cette fois-ci dans la célèbre Marche de l'amour des Trois Oranges, un opéra donné à Chicago en 1921 et arrangé pour violon et piano par Yasha Heifetz. La marche extraite de l'amour des Trois Oranges, opéra de Sergueï Prokofiev, interprété par mes invités ce matin dans Musique Matin, Elsa Gréter au violon et David Lively au piano. Alors là aussi, on ressent quelque chose de très complet et puis surtout, c'est une musique très théâtrale.
Voilà, tout à
fait. Elsa Gréter.
Pleine d'espièglerie, très théâtrale. Voilà, il y a plein de caractères, c'est lié à son opéra, justement, du même nom, l'amour des Trois Oranges. Ça a été créé à Chicago, donc il était dans sa période américaine, en 1921. Et voilà, c'est une musique pleine de caractères, d'énergie. À nouveau, il n'y a pas tellement d'autres...
Oui, c'était un tube de l'époque.
Ah oui,
David Lively.
Ah oui.
Je rappelle effectivement que Prokofiev est resté en exil entre 1918 et 1932. Oui. Votre duo, il est très équilibré dans ce disque. En tout cas, on sent un vrai respect du son de l'un de l'autre.
Ah, et une prise de son, je voudrais signaler aussi, de Aline Blondiot, qui est absolument fabuleuse. C'est vraiment très difficile de faire un enregistrement violon-piano. Ce sont des instruments qui se marient difficilement pour le micro.
En tout cas, là, le respect, je trouve, en tout cas, c'est très, très frappant à l'écoute du disque, des différentes sonorités, de vos deux sonorités. Comment vous vous êtes rencontrés, Elsa Gréter et David Lively?
Par un festival.
Mais oui, notre copain Denis Simandi, la clé des clés au soleil, qui a comme pour mission de solliciter des rencontres. Quand il m'a dit, tiens, j'aimerais que tu viennes faire un peu de musique de chambre, j'ai dit, génial, j'aimerais bien venir avec un tel ou un tel ou une telle. Et, ah non, pas du tout, non, tu vas venir découvrir d'autres. Et, j'étais un peu paniqué.
Bon, je trouve ça génial. Et,
oui. Voilà. Donc voilà, point de départ.
Enregistré pour Prokofiev ensemble, c'était après une évidence. Ce monde-là, sonore, pour vous deux.
Oui, on avait joué la première sonate en concert plusieurs fois et ça faisait partie des œuvres vraiment que j'avais envie d'enregistrer. Donc on en parlait de projet du disque avec David et Prokofiev, ça s'est imposé très très rapidement. Parce que c'est une musique justement qui demande un engagement physique, un engagement total. C'est éprouvant à enregistrer, c'est vraiment épuisant. Parce qu'il faut tout donner et en même temps c'est très précis. Et c'est voilà ce qu'on disait, plein de couleurs et d'autres...
Le troisième concerto était un de mes chevaux de bataille. C'est avec ça que je m'étais présenté au concours Tchaïkovski. C'est un monde dans lequel je me sens très à l'aise, en fait.
Elsa Gréter, vous interprétez seule, cette fois, la sonate pour violon de Prokofiev. Oui. Qu'est-ce qui vous touche tant dans cette œuvre?
Déjà, c'est une œuvre assez méconnue.
C'est vrai.
Qui est quand même enregistrée, mais peu. Je trouve que c'est une œuvre qui dit beaucoup de choses, qui est très simple, en fait, en 13 minutes à peu près, en trois mouvements. Un premier mouvement vraiment inspiré par Bach, composé pour à la base, l'idée lui est venue parce qu'il était au jury des examens au Conservatoire Tchaïkovski. Et en fait, il a eu envie de composer une œuvre qui pourrait être jouée par plusieurs violonistes à la fois. Donc ça, je le verrais plutôt appliqué au premier mouvement, moins les autres mouvements. Le mouvement lent, très très concis, mais d'une grande poésie, très très bucolique, qui se rapporte à nouveau à la nature, à la terre natale. Et le dernier, à nouveau avec son énergie, tout ce folklore, et aussi des très beaux thèmes avec toute la sensibilité slave. Donc beaucoup beaucoup de chaleur. Voilà, c'est une œuvre très vivante, je trouve, qui devrait être plus connue.
En tout cas, qu'on découvre sur votre disque Masque, paru cette année chez Fuga Libera. À Varangeville-sur-Mer, ce samedi 3 août, vous jouerez donc votre unique concert de l'été tous les deux. Vous vous retrouvez pour jouer Prokofiev, mais pas que. Il y a un programme franco-russe qui est prévu donc dans le cadre du festival Les Musicales de Normandie. David Lévy, vous nous présentez un petit peu ce que nous pourrons écouter ce samedi.
Il y aura, pour commencer, la sonate Poulenc, qui est aussi une très belle œuvre et une œuvre très grave aussi, qui a été dédiée à la mémoire de García Lorca, qui sa disparition tragique a beaucoup affecté Francis Poulenc, et on l'entend et on le sent dans cette pièce. Il y a aussi le chef-d'œuvre de César Franck, la fameuse sonate de César Franck. Et puis niché entre les deux, en terminant avec la sonate de Prokofiev, on a la belle vocalise de Rachmaninov.
Rendez-vous donc le 3 août à Varangeville-sur-Mer dans le cadre du festival Les Musicales de Normandie. On a envie de vous demander si d'autres projets de disques sont prévus.
Il y en a un,
de projet.
Voilà, j'espère.
Merci beaucoup Elsa Gretter et David Lively d'être venus. Nous allons vous écouter maintenant dans l'Allegrissimo de la sonate pour violon et piano numéro 1, l'opus 80 de Prokofiev. Je vous souhaite un bel été et puis un bon concert ce samedi.
Merci.
Merci
d'être venu.
Elsa Gretter au violon et David Lively au piano dans le dernier mouvement de la sonate pour violon et piano numéro 1 en fa mineur opus 80 de Sergueï Prokofiev. Je rappelle donc le concert à Varengeville-sur-Mer ce samedi 3 août, mais également Elsa Gretter toute seule les 5, 6 et 7 août au festival de Rock Amadour, enfin pas vraiment toute seule, et également le 8 août pour le programme Poème Mystique avec Daniel Mesgui chez Ferenc Vizi. Également le 25 août à Toulouse dans le cadre du festival Musique en Dialogue au Carmélite avec Aurélien Pascal et William Mesguich. David Lavely, quant à lui, sera en récital Chopin et musiques américaines le 17 août prochain au festival La Grange au piano dans l'Indre et le 12 octobre Salle Cortot à Paris pour le 100e anniversaire de l'École normale de musique. Il est 8h56, nous allons réécouter ce que nous avons écouté à juste avant 8h. Fallait deviner le scherzo du quintet en fa mineur, opus 34 de Johannes Brahms, interprété par le quatuor Modigliani avec Jean-Frédéric Neuburger au piano. Eh bien, si vous avez deviné, si vous avez été tiré au sort par notre cher Antoine Baglin face à moi, vous recevrez le dernier disque portrait du quatuor Modigliani paru chez Mirare. Et voici donc le nom des 5 gagnants donnés par la belle voix de David Lively.
Les heureux élus sont, attendez-vous, Jean-Noël Doloron, Nora Kala de Paris, Louise de Basemont, Jean-Simon de Joint-les-Pins et Magali de La Roche-sur-Foron, avec mes félicitations.
Eh bien, merci à vous David Lively, bravo à vous 5. Je vous retrouve demain avec grand plaisir dès 7h. D'ici là, portez-vous bien. À 8h30, je reçois le pianiste David Saudubray et le violoncelliste Gregorio Robino pour leur disque consacré à Beethoven. Je remercie toute l'équipe de Musique Matin, Antoine Baglin, Max Dozolm, Gilles Blanchard à la réalisation et à la technique, eh bien, deux personnes dont j'ai oublié absolument les noms et j'ai honte. En tout cas, je salue tout de suite Frédéric Jourda de l'autre côté du couloir pour et son été classique. Bonjour,
bonjour
Frédéric.
Bonjour Gabrielle Olivier Aguillon. C'est l'été, on a du mal parfois c'est à retrouver ça. Les idées, à les mettre en place. En tout cas, avec Louis de Funès. Non, mais avec Louis de Funès, c'était un bonheur de se réveiller ce matin. Moi, ouais, je me suis mise à danser.
De rappeler ce moment.
Voilà. Très bonne journée à vous.
Merci à Frédéric, à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.